Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie.
Tango pour Velázquez ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de violoncelle, de Séville, de Vénus, de Pape, de bandoneon et même de hip-hop. Avec Ophélie Gaillard dans un répertoire entre Espagne et Amérique du Sud pour son album Alvorada, un disque placé sous le signe de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Manu Farine.
Bossa, chanson populaire, tango, samba, avec le violoncelle en compagnon de route et un seul désir ou presque faire remuer nos orteils. La preuve tout à l'heure avec Ophélie Gaillard qui interprétera en direct avec ses musiciens une chanson de Manuel de Falla et un mouvement du grand tango d'Astor Piazzolla.
19h30, ce sera plateau baroque avec Guillaume Kienz, le commissaire de l'exposition Velázquez au Grand Palais à Paris. Première rétrospective pour un peintre de chambre virtuose, longtemps négligé par la France, Manu.
Velázquez n'est pas né génie, il l'est devenu. Démonstration au Grand Palais qui fait du peintre espagnol le peintre de la vibration et de l'inachèvement.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr, et comme toujours, sur le son du jour.
J'écris pour me faire un peu d'argent. Cela fait des années que j'entretiens ma famille. Je suis médecin aussi. C'est difficile de courir deux lièvres à la fois.
Vous commettrez une faute grave si vous ne répondez pas à votre talent.
Quand on parle de mes écrits, tout le monde ici me conseille gentiment de ne pas abandonner la médecine.
Signé de votre nom, que diable ! Anton Tchekhov. C'est un bon nom.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est un extrait de la bande-annonce de Anton Tchekhov 1890, un film qui est sorti le 15 mars dernier, le dernier film de René Ferret, cinéaste iconoclaste, on peut le dire, qui vient de s'éteindre à 69 ans seulement. Alors c'était un homme complètement à part dans le cinéma français, qui aura eu à peu près trois vies très distinctes. Une première dans laquelle il était acteur au cinéma, un choix dicté par la grande malédiction de sa vie, puisqu'il s'appelle René pour remplacer son frère mort avant sa naissance, qui s'appelait aussi René. Après une dépression, une tentative de suicide à 20 ans, il raconte son expérience dans un film, l'histoire de Paul, qui fait de lui, à 30 ans, un cinéaste prometteur, en tout cas soutenu par le système à l'époque. Son deuxième film, La communion solennelle, retrace l'histoire de sa famille. Ce sera son seul grand succès public avec 500 000 entrées en salle. Et puis l'échec de tous ses films suivants le pousse à la faillite et il devient dans une troisième vie un réalisateur modeste, discret de films délicats qu'il fait la plupart du temps en autogestion totale, financé par lui et où sa femme, ses enfants jouent et font la post-production, comme par exemple dans Annerle, la sœur de Mozart, qui est sortie en 2010, ou encore Anton Tchekhov, donc son dernier film.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Un mouvement sans précédent agite l'école spéciale d'architecture à Paris. C'est la seule école privée d'architecture en France et une des meilleures. Depuis le 13 avril, le personnel de l'école est en grève et les étudiants, eux aussi, se sont mobilisés. Ils ont même bloqué l'école hier. Ils protestent contre les choix de la direction. Ils en demandent même la démission.
Tout à fait. Alors, pour comprendre ce qui se passe à l'ESA, il faut rappeler qu'il s'agit en fait de la plus vieille école d'architecture en France. C'est une école privée, mais elle fonctionne sur le modèle d'une association. Elle est née contre l'académisme des Beaux-Arts, de la volonté d'Eugène Viollet-le-Duc de fonder une école plus expérimentale, plus ouverte sur l'international. Et elle s'est assez vite imposée comme l'une des meilleures en France. Elle coûte très cher, faut le dire, entre 7 et 12 000 euros l'année. Mais avec l'arrivée d'un nouveau directeur l'année dernière, qui s'appelle François Bouvard, les choses ont changé dans la pédagogie de l'école. Dès décembre dernier, il a décidé de licencier 8 voire 9 enseignants étrangers, dont la plupart avaient été formés donc dans d'autres pays, mais travaillaient les a depuis 15 ans. Une nouvelle très mal accueillie par les étudiants. Et puis, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une annonce qu'il a fait il y a 2 semaines, comme l'explique David Tajman, architecte et enseignant à l'ESA depuis 6 ans.
Il y a 2 semaines, le président et le directeur ont décidé de licencier 9 personnes qui travaillaient dans les services administratifs et parapédagogiques, dans un contexte où les étudiants ont besoin de ces services, plus particulièrement la reprographie, l'atelier maquette, la galerie, le service informatique qui gère toute la logistique des réseaux. Et donc toutes ces personnes ont été licenciées est mise à la porte de l'école d'une façon assez violente. Donc on est dans un contexte où il n'y a absolument pas de concertation.
Les grévistes, qu'ils soient professeurs ou élèves, reprochent en effet à la présidence et à la direction de l'école un manque total de dialogue.
Oui, et d'ailleurs c'est contraire au règlement même de l'école, puisqu'il s'agit d'une association. Donc techniquement, les élèves et les professeurs ont leur mot à le dire, notamment lors de l'Assemblée Générale, où ils ont tous des représentants. En l'occurrence, il n'y a pas eu de dialogue, la direction est passée en force. Elle s'est même servie de l'idée de l'association, la direction, pour préconiser que finalement les services supprimés soient en réalité pris en charge par les élèves eux-mêmes sur le principe de l'autogestion, dans un système associatif idéal, une aberration totale pour David Tajman qui évoque un changement fondamental de pédagogie.
L'atelier maquette, il fait partie de ma pédagogie et il a avant tout des outils qui ont besoin d'être encadrés par des professionnels. Les explications que donne le directeur sont de dire que l'école est une association et que donc il suffirait que les étudiants de l'école reprennent ces services en main, vu que ça participerait du côté associatif. Moi, je pense que c'est des outils qui doivent être manipulés par des personnes compétentes. C'est des outils dangereux, des scies circulaires, des machines à découpe laser pour lesquelles il faut une formation spécifique. Et on ne peut pas demander du jour au lendemain à des étudiants qui payent leur scolarité de prendre en main ces outils à la place de personnes qui ont été licenciées.
Le directeur François Bouvard estime quant à lui ne pas avoir d'autres solutions.
Oui, alors il n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais il avait expliqué dans la seule interview qu'il a donnée au journal Le Monde que ses prédécesseurs lui avaient laissé une situation assez désastreuse, que l'école était déficitaire de 300 000 euros et que le nombre de nouveaux étudiants était en baisse constante, alors que ce sont les frais de scolarité qui représentent 90% du budget de l'école. Mais pour Grégor Calab, qui est donc élève en quatrième année à l'ESA, les choix de la direction ne vont faire qu'empirer le problème.
J'ai simplement choisi cette école parce qu'elle avait pour moi un caractère expérimental comparé aux autres écoles d'architecture en France que j'estime être assez classique. Je suis venu aussi également à l'ESA parce qu'il y avait cette dimension internationale. Il y avait plus de 40% d'étudiants étrangers, ce qui pour moi est une richesse. Je ne retrouve plus ça depuis qu'il y a cette direction. C'est-à-dire que les enseignements, par exemple anglophones, ont été amoindris. Ils se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main. Le côté expérimental de l'école, qui était vraiment le fleuron de cette école, a complètement disparu. On essaie de rentrer dans un moule dans lequel on ne peut pas rentrer. Nous sommes une école privée, la seule école privée d'architecture en France, et plutôt que d'investir nos différences pour être plus attractive, on se retrouve à essayer, à tenter de faire la même chose que le public, ce qui est simplement impossible. C'est-à-dire quand on peut avoir gratuitement le même enseignement qu'on a, pourquoi le payer ?
Voilà, alors l'ESA continue quand même de fonctionner au ralenti pour ne pas pénaliser notamment les élèves qui passent leur jury et leur concours de fin d'année. Mais les grévistes continuent donc de demander un changement de direction.
Peut-être des réactions de la part de nos invités. Ophélie Gaillard, vous vouliez vous exprimer ?
Ce qui me préoccupe en fait, c'est cette façon qu'on a d'être tous les uns et les autres dans nos domaines, un peu ballottés avec des décisions qui peuvent paraître relativement arbitraires et qui nous poussent à être comme une sorte de petite coquille de noix au milieu de la tourmente. Et je trouve que ça n'aide pas à avoir une ligne directrice, une conduite artistique qui nécessairement demande du temps, demande qu'on soit disponible pour cela et demande une exigence aussi qui va au-delà des quelques jours où on est comme ça soumis à des changements qui semblent brutaux. Je connais pas bien le dossier, mais c'est...
Et dans votre domaine, vous pensez à quoi ? Les conservatoires, par exemple ?
Par exemple, les conservatoires qui sont en danger et on a une mission, il y a une mission vraiment d'enseignement et d'éducation et de partage de la culture qui est tellement essentielle quand on voit dans une certaine désertification et en même temps une demande réelle parce qu'on est, moi autant que beaucoup des musiciens avec lesquels je travaille, très souvent au plus près des enfants, des élèves et la demande et le besoin, ils sont là. Donc c'est important qu'on arrive à maintenir ce cap-là et cette exigence artistique.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec la démission de la patronne de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, Agnès Sahal, à la demande de la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin. Démission qui prend effet immédiatement. Agnès Sahal était visée par une lettre anonyme qui a dénoncé ses factures de taxi. Alors qu'elle a remplacé Mathieu Gallet à la tête de l'INA en mai 2014, en 10 mois de fonction, elle avait totalisé une facture de plus de 40 000 euros de taxi auprès de la compagnie G7, alors qu'elle avait déjà un chauffeur personnel.
Record absolu. celui au Centre Georges Pompidou pour l'exposition Jeff Koons.
La rétrospective qui a fermé ses portes lundi soir est l'exposition d'un artiste vivant la plus fréquentée de toute l'histoire du Centre Pompidou. Avec 650 000 visiteurs et des poussières, elle dépasse largement l'exposition Soulages. Elle a été ouverte donc en novembre 2014 et elle a réalisé une moyenne journalière de 5 000 personnes, mais avec un démarrage historique, toutes catégories confondues, puisque lors des deux premières semaines, il y a eu plus de 112 000 visiteurs.
La mairie de Paris rénove ses 36 kiosques à musique.
Oui, vous les connaissez, ils étaient autrefois le centre névralgique des parcs et squares parisiens avec fanfares, concerts classiques, etc. La mairie va consacrer presque 4 millions d'euros à leur rénovation, entre 30 et 400 000 euros par kiosque. Les travaux vont commencer dans quelques semaines et dureront 2 ans.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une petite histoire de sécurité routière, d'art urbain un peu au rabais, il faut le dire, une histoire grivoise, vous savez que j'aime ça, mais quand même une histoire assez utile, puisque alors il s'agit d'une histoire assez drôle d'un homme alors qui s'est auto-baptisé Vansky, qui est en fait un anonyme anglais qui aimait beaucoup faire du vélo et qui habite en Grande-Bretagne sur des routes de campagne mal entretenues. Et qui n'arrêtait pas d'avoir affaire à des nid de poule. Vous connaissez le nid de poule, c'est cette espèce de trou dans la route qui fait que vous vous cassez la gueule quand vous êtes en vélo ou que vous perdez un petit pneu quand vous êtes en voiture. Des nid de poule que les mairies refusaient systématiquement de recenser et donc de réparer. Qu'a-t-il fait cet homme ? Il a décidé, autour des nids de poule, au-dessus, comme ça, autour, de dessiner de gros pénis avec avec de la peinture blanche.
J'ai l'impression que vous l'inventez.
Signé Vansky. Vansky, donc en référence à Vansky, ouais. Artiste évidemment d'art urbain qu'on connaît bien. Vansky donc, parce qu'il s'est rendu compte que qu'en réalité, en dessinant d'énormes pénis sur ces nids de poule, la mairie était bien obligée de les couvrir de béton pour qu'il n'y ait pas d'œuvre d'art obscène sur la route. C'est ainsi qu'il a réussi à faire réparer plus d'une dizaine de nids de poule. Il vous encourage tous, vous qui êtes là autour de cette table, à vous aussi devenir un artiste de rue d'un jour pour finalement plus de sécurité routière.
Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités ? Ophélie Gaillard, les kiosques parisiens par exemple, les kiosques à musique, cette réhabilitation, ça vous paraît intéressant ?
Oh, je trouve que c'est un charme absolument incroyable, donc je suis à fond pour la réhabilitation des kiosques.
Vous y avez déjà joué ?
Surtout s'il y a des crêpes à manger à côté,
ah bon,
par
d'accord,
exemple,
des choses
comme ça, voilà.
Bien entendu. Et sur les nids de poules, j'imagine que personne n'a rien à dire. Oh bah ah, c'est Guillaume Kienz.
Une anecdote un peu phallocratique, ça prouve que c'est toujours la même chose qui dirige le monde.
Parfait.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau hispanisant, mais pas que, avec vous, Ophélie Gaillard, violoncelliste, révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique classique en 2003. Vous êtes la fondatrice de l'ensemble Pulcinella, qui fête cette année ses 10 ans. On vous a d'abord identifié au répertoire baroque et à la défense de la musique sous instruments anciens. Mais ça, c'était avant que vous ne vous aventuriez du côté du répertoire romantique, Schumann, Chopin, Brahms, mais aussi contemporain, avec notamment l'enregistrement de l'intégrale des suites de Benjamin Britten. Et aujourd'hui, un nouveau pas de côté avec Alvorada, c'est un double album paru sous le label Aparté, un album en forme de voyage de l'Espagne à l'Amérique du Sud, de Manuel de Falla à Piazzolla, en passant par Gaspar Casado, Villa-Lobos et même Tom Jobin avec des arrangements pour violoncelle. Quand on travaille un tel répertoire, à la fois éclectique mais tenu par une couleur, c'est-à-dire celle de l'Espagne et de l'Amérique du Sud, on prend le risque, et c'est vous qui le dites d'ailleurs, d'un exotisme de touriste. De quoi fallait-il se méfier avec la composition de cet album, Ophélie Gaillard ?
Moi, je continuerai à citer Nicolas Bouvier qui dit qu'il ne faut pas voyager pour se couvrir comme un sapin de Noël de diverses petites décorations et qu'on est au contraire, on fait un voyage pour être complètement essoré et rincé de tout ce qu'on voit et mis à nu aussi d'une certaine façon. Donc ce voyage est aussi une mise à nu peut-être.
Par où et par qui vous avez commencé à construire cet album ?
Cet album est très lié avec Gabriel Sivac, avec lequel je vais jouer la Nana de Manuel de Falla, puisqu'il a arrangé une bonne partie des titres de ces deux disques, hein, puisqu'on a le voyage est long, donc on a prolongé le voyage sur deux disques. Et puis aussi de beaucoup d'affinités avec différents musiciens qui partagent les micros avec moi sur cet enregistrement et qui sont tous qui me font l'honneur d'être avec moi, qui sont magnifiques.
Il n'y a pas une musique ou un compositeur qui a déclenché
un tel voyage ? Ah si, complètement. À Alors, c'est parti du violoncelle quand même, encore et toujours.
J'imagine, oui.
C'est une constante dans ma vie. Et c'est parti de la sonate de Casado, qui était un grand violoncelliste, élève de Pablo Casals, et qui, à travers cette sonate, pas encore assez connue du grand public à mon avis, rend hommage à l'Espagne, depuis la Catalogne jusqu'à l'Andalousie, en traduisant pour le violoncelle des rythmes, des sortes de tournures de phrases qui sont proprement espagnoles ou andalouses pour certaines, et qui font que le violoncelle se transforme en une guitare flamenca. Et c'est très étrange, c'est très beau, et ça permet de dépasser les limites de l'instrument. J'aime bien cette idée d'un violoncelliste qui s'affranchit du violoncelle.
À quel niveau, par exemple, ça a pu modifier votre façon de jouer ou votre façon d'appréhender cet instrument ?
Disons qu'on développe un sens du rubato qui est aussi hérité, évidemment, des compositeurs de la première moitié du siècle dernier, de Falla, Granados et Albéniz, notamment. Et donc un sens du rythme, un sens de la tournure de phrase aussi, qui sont proprement ibériques. On entend tout de suite à la première note qu'on joue. Et puis un sens aussi du... Je pense que le son que je recherchais sur dans cette aventure... probablement creuset plus profond du fait que cette âme espagnole est tellement intense, et bien peut-être qu'on va en parler avec Velázquez aussi, sous les draperies il y a beaucoup de profondeur et même de tragique, et c'est Lorca qui parle à propos de la guitare du son entero, et j'ai essayé de trouver ce côté presque âpre, rude, aride parfois, mais qui fait aussi partie de la beauté du violoncelle. Et puis alors après, il y a aussi le violoncelle qui chante plus dans la partie brésilienne et qui est plus dans la sensualité, on va dire.
Manu.
Alors justement, Ophélie Gaillard, partie plutôt espagnole. Hein, on va vous écouter tout de suite interpréter une chanson populaire espagnole de Manuel de Falla, Nana. Donc je vous laisse regagner votre violoncelle avec au piano justement Gabriel Sivac, qui par ailleurs donc signe les arrangements de l'album, en direct donc du studio 108 sur France Culture. Ophélie Gaillard, c'est à vous. Thank you. Ophélie Gaillard au violoncelle et Gabriel Sivak au piano, en direct du studio 108 sur France Culture. On vous retrouve tout à l'heure, Ophélie Gaillard, pour le grand tango de Piazzolla avec vos musiciens. Et je signale que l'album Alvorada a paru sous le label Aparté. Cette courte pièce, hein, c'est donc l'une des 7 chansons populaires que Manuel de Falla va composer en 1922. Pourquoi est-ce qu'il fallait ouvrir ce double album avec ces 2 chansons de Manuel de Falla?
Il me semble que la voix et le texte qui manquent finalement manquent assez peu puisqu'il s'agit d'une berceuse pour les enfants. Et très curieusement, ça vient tout simplement d'un double hommage à l'Espagne, à l'Argentine et à Lorca. On a un triangle là dans ce disque puisque Lorca a consacré une très belle conférence aux chansons, aux nanas de toute l'Espagne. Il a étudié toutes ces traditions-là et c'est vrai que quand on entend ça, d'abord on se demande si c'est vraiment adressé à un enfant et si c'est bien raisonnable de dire des choses aussi profond et grave à un enfant qui va s'endormir. C'est quand même très étrange et très profondément espagnol. Et puis aussi, c'était une façon de rendre hommage à la voix, notamment à des voix qui m'ont inspiré aussi dans mon parcours. Par exemple, Montserrat Figueras, qui m'a beaucoup influencée.
Guillaume Kienz, tout à l'heure, on parlera du peintre espagnol Velázquez. Vous travaillez depuis pas mal de temps sur ce sujet. Est-ce que par ailleurs, vous écoutez justement la musique aussi espagnol, musique 17e, baroque?
Alors j'écoute la musique espagnole, 17e, baroque, mais aussi 19e, aussi tous les Goyescas, parce que Goya est un de mes autres artistes sur lesquels je travaille. Et je l'écoute tellement qu'en fait, dans une monographie que j'ai publiée en parallèle de l'exposition, qui s'appelle Velázquez, l'affrontement de la peinture.
Aux éditions Cohen & Cohen.
Exactement, avec l'éditeur, nous avons joint un CD de musique d'un ensemble qui s'appelle La Folia, qui joue de la musique de l'époque de Velázquez. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très liées, et d'ailleurs, peinture et musique, on a en partie le même vocabulaire.
Vous regardez de la peinture quand vous travaillez de la musique de cette période, par exemple?
J'ai des références qui sont, oui, très picturales. Et puis alors, pour le coup, Velázquez est vraiment une source d'inspiration en termes de couleurs, de matière, qui est fabuleuse.
Alors, on parlera tout à l'heure avec vous. Alors, pour cet album où vous êtes entouré de voix, je pense à la soprane Sabine Devielle ou même à Toquinho, le chanteur et guitariste brésilien. Vous êtes entouré de musiciens, d'instruments inédits pour vous, le bandoneon et les percussions en particulier. Vous dites avoir dû leur poser à tous des milliers de questions. Par exemple, quelles étaient pour vous les préoccupations principale difficulté pour appréhender le jeu avec des percussions?
Alors, j'ai eu l'occasion d'en faire justement à travers mon travail sur le répertoire 17e, 18e avec mon ensemble. Je travaille souvent avec des percussionnistes et la première fois que j'ai travaillé avec des castagnettes, par exemple, c'était sur le fandango de Boccherini, qui me semblait indispensable, auquel il semblait indispensable d'ajouter des castagnettes. Mais c'est vrai que là, c'est plus particulièrement à chacun que j'avais envie. En fait, je suis très gourmande, alors j'aime apprendre, j'aime partager et quand j'ai la chance de travailler avec des musiciens qui savent tout de ce que c'est qu'un rubato ou d'une technique d'archet. Par exemple, mon contrebassiste avec lequel je travaille, Romain Lécuyer, a une technique d'archet de main droite absolument fabuleuse et moi je m'en inspire même par rapport aux cours que je donne avec mes étudiants.
Enfin, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Une qualité d'attaque, c'est comme s'ils ne parlaient pas la même langue. Donc c'est d'autres moyens, on parlait tout à l'heure de moyens, les moyens qu'on est des artisans hein, finalement, et on fabrique le son avec tout un tas d'ingrédients très, très spécifiques. De même que le son comme ça tellement nostalgique et qui vous étreint d'un bandoneon, si on peut arriver à avoir cette espèce de son droit comme ça qui file sur un violoncelle, c'est juste génial.
Anou.
Qu'est-ce que ça vous a demandé justement que de tenir comme ça ce dialogue avec le bandoneon qui est très présent hein, sur l'ensemble de l'album, mais donc pour une violoncelliste, hein, qu'est-ce que ça demande que ce dialogue-là?
Ce sont avant tout aussi, je parlais de mise à nu au départ, hein, c'est-à-dire que c'est aussi une mise en danger de son savoir-faire. Et puis on se dit qu'il faut agrandir sa boîte à outils, se donner des moyens supplémentaires, y compris en termes de technique de jeu. Et puis c'est une rencontre aussi artistique avec Juan Romo Salini. C'est pas le bandoneon en général, parce qu'il y en a bien des bandoneons qui me laissent totalement indifférente.
Vous jouez alternativement sur 2 violoncelles, hein, Francisco Gaufrière, c'est ça, de 1737 pour le répertoire baroque. C'est un violoncelle sans pique hein, que l'on tient entre les mollets. Et puis un autre violoncelle, c'est le Bernard Bell Père de la fin du 19e siècle pour le répertoire romantique et moderne. Ici, pour un tel enregistrement, quelle qualité particulière d'instrument il vous fallait, Ophélie Gaillard?
Eh bien, figurez-vous que je ne me suis pas séparée de ce Gaufrière qui est un violoncelle vénitien pour la bonne raison qu'il a toutes les qualités. Il est à peu près aussi susceptible de métamorphose que j'essaye de l'être moi-même. Et quand il sonne dans une folie du 17e, il sonne tout à fait différemment avec des cordes en boyau que quand je joue du Xenakis. Donc même du Xenakis, je peux jouer sur cet instrument. Et avec évidemment des cordes différentes et un archet différent. Mais il a une profondeur de chant. C'est comme si vous aviez une contrebasse en même temps que le violoncelle. Donc, et ça se voit d'ailleurs dans le vernis de l'instrument. Je pense que vous y serez sensible en voyant l'instrument. Il y a une vie à l'intérieur de ce vernis.
À nous.
Vous dites d'ailleurs à propos de cet instrument que vous avez su tout de suite que c'était le bon. Qu'est-ce que vous avez reconnu en lui ?
Oui, des fois c'est plus facile avec les instruments que dans la vraie vie. C'est bizarre, non ? Oui, c'est une sorte de coup de foudre avec un timbre, parce que ce sont des instruments qui sont assez, qu'il faut apprivoiser, qui sont assez difficiles à contrôler, aussi qui sont très qui peuvent se cabrer quand on se braque. Et donc, c'est une sorte de rencontre comme ça. Mais il continue à me surprendre. Et je continue à essayer d'en sortir des sons. J'espère qu'il n'avait jamais été suscité avant moi, j'espère.
Vous avez aussi joué du violoncelle de Casals. Et vous le qualifiez de capricieux, rebelle et viril. Comment ça sonne un violoncelle capricieux, rebelle et viril?
De toute façon, c'est toujours viril, violoncelle.
C'est toujours viril, hein,
c'est masculin, un violoncelle.
Mais c'est en au-delà ou en deçà de toute espèce de catégorie, je crois. C'est-à-dire que c'est un des seuls instruments qui finalement peut couvrir toutes les tessitures de la voix humaine, depuis une basse profonde jusqu'à la soprano légère. Quand je joue avec Sabine de Vielle, je peux rivaliser avec ses aigus. Et quand je joue avec un baryton, je peux aussi donner le change. Donc c'est ça la richesse de cet instrument, c'est d'être tout à fait ouvert dans toutes ses dimensions.
Alors, pourquoi celui de Casals était-il capricieux et rebelle?
Un peu revêche. Je pense que j'aurais dû lui donner 2 heures de plus. Je l'ai essayé pendant 2-3 heures comme ça, au détour d'un magasin de lutherie, parce qu'on, sa veuve a bien voulu me le prêter. Mais je pense que ce sont des violoncelles. Peut-être que moi-même, j'étais pas la meilleure lunée ce jour-là et que donc j'ai pas su l'amadouer comme il aurait fallu.
Manon?
Alors c'est avec votre Gollifère que vous aviez enregistré pour la seconde fois les suites pour violoncelle seule de Bach. Et c'est d'ailleurs en entendant les suites pour violoncelle par Paul Tortelier que vous dites avoir eu envie de faire de la musique. On en écoute un extrait. Entendez Ophélie Gaillard quand vous entendez donc cette interprétation de Paul Tortelier, et qu'est-ce que vous aviez entendu à l'époque pour que ça décide d'une certaine façon de votre vocation?
Oui, je crois que c'était tout à fait saisissant quand j'ai entendu. En fait, je le vois, quand j'entends ça, je le vois et je me dis, mais mon Dieu, il faut absolument continuer à le garder vivant, cet homme-là. Et c'était une sorte de conteur magnifique, en plus avec des allures de danseur, enfin un être extrêmement beau, extrêmement chevalin, comme ça, très fin. Et moi, j'étais totalement subjuguée par sa façon de raconter des histoires. Et pour le coup, une imagination extrêmement visuelle aussi. Et ça m'a beaucoup touchée. Je pense que ça me parlait aussi beaucoup comme enfant. Il racontait des choses, et vraiment, il racontait des histoires, mais parfois très, presque un peu banales comme ça, mais tellement vraies, tellement prises sur le vif à propos des suites de Bach en masterclass ou même dans des émissions comme au Grand Échiquier. J'ai un souvenir d'une histoire autour d'une bourrée de Bach, mais insensée. Et je me souviens de tous les détails, de la porte qui se ferme, de la chambre, dans l'histoire qu'il racontait. Il avait ce talent-là, et je crois que c'est ça qu'on doit aussi cultiver et préserver en tant qu'interprète, c'est cette façon de raconter des histoires.
Je vais rebondir sur la définition que vous donnez de Tortelier en parlant de lui comme étant un danseur, parce que cet album, dites-vous, a aussi pour vocation de faire bouger les orteils. Et la danse, c'est quelque chose que vous connaissez depuis pas mal de temps. Ophélie Gaillard, vous avez collaboré sur scène avec des chorégraphes comme Daniel Larieux ou Sidi Larbi Cherkaoui. C'est même assez physique, je pense au spectacle en filigrane avec le chorégraphe hip-hop Ibrahim Sissoko, hein, que vous tournez encore toujours. Est-ce que ces expériences avec des chorégraphes ont fait bouger quelque chose dans votre façon de jouer, dans la gestuelle peut-être ?
Dans ma façon de bouger, de respirer, de
respirer.
Ah, complètement, oui. Dans ma façon de... On ne peut pas ne pas citer dans cette émission Lope de Vega. C'est lui qui dit le premier que la musique, en fait, crée sa demeure dans l'air. Et il y a cette notion, parfois on oublie ça quand on est musicien, que en fait le son il n'existe pas si on le développe pas dans un espace. Et le danseur, les danseurs que j'ai pu rencontrer m'ont fait prendre conscience de cet espace-là, de ce déploiement du corps, et qu'aussi un son ne peut se déployer que quand on est dans une certaine harmonie, ou bien qu'on est désarticulé, mais c'est parce qu'on vise cela aussi d'un point de vue du son qui est produit. Donc cette exigence extrême du danseur, moi, me touche infiniment.
Vous n'étiez pas simplement sur scène à côté des danseurs, vous avez vraiment participé à la chorégraphie. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus difficile à faire avec votre violoncelle, d'un point de vue physique ? C'est avec Sissoko ?
Oui, sans aucun doute, parce qu'il avait justement cette liberté de pouvoir prendre le violoncelle comme on était comme une sorte de... On est dans ce spectacle, trois personnages, lui, moi et le violoncelle. Et avec cette liberté, ne connaissant pas spécialement les codes de jeu particuliers, les exigences que ça demande de précision et les difficultés d'exécution, en fait, il me demandait des choses complètement invraisemblables. Et puis,
du style
De jouer à l'endroit, à l'envers, de me mouvoir dans tous les sens en même temps que je jouais. Pendant le spectacle, il m'embête passablement. Il me fait les pires misères, disons. Et en fait, ça libère énormément de choses, de mouvements. D'abord, on se rend compte qu'on peut être beaucoup plus libre de son corps qu'on ne nous l'apprend au conservatoire trop souvent. Donc du coup, je m'en sers évidemment par rapport à mes élèves et avec bonheur.
À nous.
Comme à tous nos invités, Ophélie Gaillard, cette saison, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué et vous avez suggéré celui-ci. Identification de ce son, Ophélie Gaillard, et pourquoi l'avoir choisi ?
C'est la voix de Maria Farandouri chantant Theodorakis. Ça vous prend les tripes quand même, non ? C'est un live en plus là, visiblement. Il y a cette dimension de participation du cœur antique là, on s'y croit. Moi j'ai un rapport à la Grèce qui est complètement des entrailles, quoi. Et puis en plus j'ai un souvenir d'enfance d'un concert où c'était absolument hallucinant, mais j'étais en plein été comme ça dans des gradins, donc à la grecque vraiment. Et puis pendant le concert, elle était en deuxième partie de concert, elle s'est mise à chanter et la terre s'est mise à trembler. Je suis désolée pour les allusions terribles à l'actualité, mais c'était impressionnant d'entendre cette espèce de terre qui se mettait à gronder, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je me suis dit, mais bon sang, cette voix, ce pouvoir-là, ben j'aimerais bien avoir le même avec mon violoncelle, c'est quand même incroyable.
Eh bien, on va voir peut-être que ça va nous arriver maintenant, puisque je vais vous laisser regagner votre violoncelle, quitte à faire trembler le studio 108 de la Maison de la Radio. Manou ?
On va vous écouter pour interpréter donc un mouvement du Grand Tango de Piazzolla, avec vos musiciens, Romain Lécuyer à la contrebasse, Juanro Mussolini au bandoneon. Pour donc un extrait de ce grand tango de Piazzolla en direct du studio 108 sur France Culture, Ophélie Gaillard, c'est encore à vous. Juan Romo Salini au bandoneon, Romain Lécuyer à la contrebasse pour le grand tango de Piazzolla. L'album Alvorada a paru sous le label Aparté. Je signale que vous serez en concert le 28 mai à Beaugency pour le festival de Sully et du Loiret, et le 29 mai au festival de Mel avec Romain Lécuyer et Juan Romo Salini qu'on vient d'entendre. Toutes les dates sont sur le site de l'émission sur franceculture.fr.
Le rendez-vous.
Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le cendre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons par un progrès secret et continu dont aucun heurt, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. L'espace règne. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les surfaces, s'imprègne de leur émanation visible pour les définir et les modeler, et emporter partout ailleurs comme un parfum, comme un écho d'elle, qu'elle disperse sur toute l'étendue environnante en poussière impondérable.
Plateau Peintre des Peintres avec vous, Guillaume Kientz. Vous êtes le conservateur, il y en a plusieurs, du Musée du Louvre à Paris, commissaire de l'exposition Diego Velázquez au Grand Palais, toujours à Paris. Une réunion exceptionnelle de 57 toiles de celui qui fut peintre de chambre, portraitiste officiel de la cour du roi Louis IV d'Espagne au XVIIe siècle et que Manet avait qualifié de Peintre des Peintres. On vient d'ouvrir sur une lecture de Velázquez, de l'historien de l'art Élie Faure, un texte paru en 1903. C'est un extrait de Pierrot le Fou, puisque c'est Jean-Luc Godard, puisque c'est Jean-Paul Belmondo qui le lit dans sa baignoire. Un beau texte, écrivez-vous, dans le catalogue de l'exposition. Trop beau, vous ajoutez. Pour quelle raison ?
Trop beau parce que... Et c'est pas un reproche. Le texte d'Élie Faure est absolument sublime. À la fois ce qu'il écrit sur Velázquez dans son histoire de l'art et ce qu'il écrit sur Velázquez dans l'opuscule qu'il lui consacre. Mais Élie Faure nous emporte, je ne sais pas s'il se laisse emporter, mais en tout cas il nous emporte par son flot littéraire et on va au-delà de Velázquez à la fin.
Il en oublie la peinture.
Je ne sais pas s'il oublie la peinture, mais il sublime Velázquez. Et donc ce n'est pas du tout l'approche de l'historien de l'art, ce n'est pas l'approche qui est la mienne, mais dans la dernière salle de l'exposition, justement qui est une salle qui joue sur l'émotion, et bien là, une partie de cette citation d'Élie Faure est rendue.
Velázquez est un monument absolument en Espagne, mais en France, il va falloir attendre le 19e siècle pour se pencher sur le peintre avec la plus enthousiaste de Manet. Qu'est-ce qui en faisait d'ailleurs pour lui le peintre des peintres ?
Alors Manet, oui, effectivement, il sacre Velázquez, le peintre des peintres. Mais quand il dit le peintre des peintres, je crois qu'il faut comprendre deux choses. C'est d'abord le plus grand des peintres, et dans une autre lettre, il dira le plus grand des peintres, mais c'est aussi le peintre de la peinture. Manet est un artiste de la matière, est un artiste de la peinture posée sur la toile, qui vibre, qui respire, qui a une présence physique. Et Velázquez, plus que tout autre peintre qui lui précède ou qui lui succède, et a été ce peintre de la matière qui plaît tant à Manet. Et dans les commentaires que va faire Manet de l'œuvre de Velázquez, il est aussi fasciné par une chose, c'est la capacité que ce génie espagnol a de faire circuler l'air, l'atmosphère autour des modèles, et notamment autour du célèbre bouffon Pablo de Valladolid que nous présentons.
Et nous.
Alors, une particularité, en tout cas une des particularités de Velázquez va aussi faire écho chez les modernes, c'est le caractère inachevé de nombre de ses toiles. Je pense aussi au repentir, aux reprises. Qu'est-ce que cet inachèvement sur lequel vous insistez beaucoup dans l'exposition pourrait mettre à jour dans sa peinture même, dans la peinture de Velázquez ?
Il y a une peinture qui est emblématique de ça, c'est le portrait du sculpteur Juan Martinez Montanés, daté de 1636.
Tout à fait, ça fait partie des peintures. Effectivement, Velázquez aime laisser des points de suspension. C'est un artiste qui est éminemment littéraire dans son approche picturale, ou alors est-ce nous, parce que nous sommes pétris de culture littéraire, qui voyons sa peinture par le prisme de la littérature. Mais il est vrai que Velázquez est un peintre qui laisse place à l'improvisation, comme en musique d'ailleurs, puisqu'il utilise peu le dessin, il attaque directement la toile, il change d'idée, il y a des repentirs effectivement en cours d'exécution, et c'est un artiste qui va laisser mourir la note, pardon de réutiliser des métaphores musicales, mais ce sont des univers qui en termes de lexique sont tellement proches, il va laisser mourir la note et il va laisser au spectateur, à l'auditeur de sa peinture, eh bien le soin de terminer, et c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça.
À propos de reprises, vous aviez demandé deux prêts, deux toiles en particulier en Angleterre qui permettaient de mettre à jour cette façon dont Velázquez reprenait ses tableaux. Ces toiles vous ont été refusées, je crois qu'il y avait le porteur d'eau de la première période. De quoi s'agissait-il et qu'est-ce qui se jouait précisément avec ces deux toiles?
Alors, c'est surtout le porteur d'eau du Wellington Museum à Apsley House à Londres. C'est un tableau qui est emblématique, qui est sans doute le chef-d'œuvre de jeunesse de Velázquez. Et c'est pour cette raison que pour nous, il était très important de l'avoir, d'autant que c'était l'occasion de montrer d'autres œuvres de son atelier, dont une complètement inédite qui se trouve en collection particulière. Mais ces œuvres qui sont des répliques ou des copies d'atelier n'avaient plus de sens dès lors que l'original n'était pas disponible en raison de l'anniversaire de Waterloo.
Alors l'exposition compte évidemment de nombreuses toiles, des toiles célébrissimes, je pense à la toilette de Vénus ou la Vénus au miroir qui a été peinte probablement aussi en plusieurs étapes, c'est un petit peu compliqué, on ne sait toujours pas trop à quel moment la dater, c'est une Vénus de dos, nue, allongée sur un lit avec une nuque et une chute de rein sublime et qui contemple son reflet dans un miroir qui est tenu par Cupidon. C'est d'ailleurs le seul nu peint par Velázquez, donc difficile à dater, entre 1647
et 1500. Le seul nu conservé par Velázquez.
Ah, il en a peint d'autres ?
Il en a peint d'autres, mais il y a eu un grand malheur dans l'histoire des tableaux de Velázquez, c'est l'incendie du palais de l'Alcazar en 1734, et il y avait vraisemblablement deux autres nus féminins peints par Velázquez.
Ce nu-là a probablement été peint avant ou après ou pendant son second voyage en Italie, on ne sait pas trop. Quelles pistes ont finalement été retenues lors des recherches préalables à l'exposition? Parce que l'exposition sert aussi à ça, à faire une mise au point sur les recherches en cours sur Velázquez.
Alors tout à fait, l'exposition est un grand moment d'expérimentation, un grand moment de confrontation. C'est la preuve par la réalité de la peinture, qui ou pas. D'ailleurs, parfois on est contredit par les expositions dans nos raisonnements. Pour la datation de la Vénus, ça reste extrêmement difficile. En dehors de toute référence documentaire, il demeure impossible de savoir si ça a été peint avant le second voyage en Italie, pendant ou après. Donc ça reste une énigme. On sait en tout cas qu'en 1651, le tableau est sur l'inventaire d'un aristocrate espagnol, Gaspar de Haro, grand amateur de femmes et de peinture.
Alors même qu'on est en plein climat d'inquisition.
C'est ce qui a fait pencher les critiques qui estiment qu'il est plus probable que le tableau ait été peint à Rome, parce que en Espagne, la peinture, de faire poser un modèle nu féminin devant un peintre est une chose absolument proscrite par l'inquisition.
Comment vous regardez Velázquez, vous, du côté de la musique, Ophélie Gaillard? Est-ce qu'il y a des toiles qui vous ont marqué plus particulièrement?
J'aime beaucoup ce travail d'investigation que vous faites. C'est vraiment au plus proche de la toile, au plus proche de la matière, et puis avec une exigence historique qui est finalement très proche de la démarche que je peux avoir pour le.
Quand vous travaillez.
Quand je suis hype, comme on dit, c'est-à-dire historiquement informée, puisque c'est le terme qui est d'usage maintenant. Moi, ce qui me frappe le plus, enfin, ce qui m'agrippe, en fait, c'est la façon qu'il a de provoquer mon regard. Et je trouve que c'est peut-être plus qu'avec aucun autre du grand siècle. de ce 17e, cette façon de vous happer, de vous mettre en question et de vous faire exister en tant que regardeur. C'est assez saisissant, je trouve.
William Kent.
Ce qui est fascinant, effectivement, c'est que vous l'avez très bien dit, c'est qu'il capture et captive. C'est-à-dire, il va capturer l'air, l'atmosphère. Ça lui arrive à Rome lors de son premier voyage, où d'un coup, il découvre, il respire picturalement pour la première fois, et cet air ne quitte plus ses compositions. Et cet air, il nous le fait le partager. Ses compositions sortent simplement du cadre de ses tableaux. Et c'est un peintre qui a un grand souci du spectateur. La Vénus au miroir en est un exemple. D'un coup, on est captivé, mais on est aussi capturé, parce que qu'est-ce que regarde Vénus? Est-ce qu'elle se regarde elle-même? Est-ce qu'elle regarde le peintre qui le peint? Est-ce qu'elle nous regarde nous? Les Ménines en sont le parachèvement. Et ça crée une temporalité et ça crée un jeu de regard, de circulation qui fait qu'on est complètement emprisonné, au bon sens du terme, dans sa peinture. Donc et dans ses portraits, ce qui est de fascinant, c'est que au bout de 5 secondes, il inverse le rapport, justement avec cette force du regard. C'est-à-dire que vous regardez un portrait de Velázquez, au bout de 5 secondes, vous avez l'impression que c'est le portrait qui vous regarde, tellement sa présence est réelle.
Un mot sur sa façon de dessiner, ou plutôt de ne pas dessiner. C'est-à-dire qu'il peint en dessinant. Il ne part pas du dessin, c'est ça ?
A priori, il ne part pas du dessin. On conserve extrêmement peu de dessins de Velázquez, 4, 5, selon les attributions qu'on accepte, qui sont tous virtuoses, mais assez peu excitants, pour tout dire. En revanche, ce que l'on sait, ce que l'on voit dans les radiographies de ses tableaux, c'est qu'il change d'avis en cours d'exécution. Donc, il attaque la peinture à la prima, comme on dit en Italie. Et dans son inventaire, après décès, il y a beaucoup de tableaux qui sont caractérisés comme dibujado de pintura, c'est-à-dire dessinés en peinture. Donc il dessinait en peinture.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour. Ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.
Quel souvenir est lié à ce son pour que vous l'ayez choisi, Guillaume Kent ?
Mais en fait, parce que je me souviens très bien, donc c'était en 89, j'avais presque 9 ans.
Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire une phrase pareille ?
Et d'un coup, mes parents, avec mon petit frère, nous cherchent et nous mettent devant la télé et nous disent regardez ce qui se passe. Alors, je suis alsacien, donc l'Allemagne était une proximité immédiate. Et d'un coup, j'ai vu l'histoire se passer, j'ai compris qu'un monde se terminait, qu'un monde nouveau commençait, et j'ai compris que ce monde, c'était le mien.
Sous les draperies, il y a beaucoup de profondeur et même de tragique.
Et c'est mieux comme ça.
Merci à nos invités. Ophélie Gaillard, Alvorada est sorti sous le label Aparté Musique. Toutes les dates de concert sont sur le site de l'émission. Guillaume Kienz, Velázquez est aux Galeries Nationales du Grand Palais à Paris jusqu'au 13 juillet. Le catalogue de l'exposition est coédité par les éditions Musée du Louvre et RMN Grand Palais. Et puis je signale aussi votre essai, Velázquez, l'affrontement de la peinture, aux éditions Cohen & Cohen. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
La poésie, c'est plutôt Brassens, non ?
Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin.
Ça fait rire Ophélie Gaillard. Demain, une émission peut-être sosie avec l'écrivain Yann Moix et le réalisateur Damien Manivelle. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Adrien Nazelli et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Emmanuel Morsdincan et Tristan Gratalon, et à la réalisation Thomas Beau.
Je signale par ailleurs à tous les auditeurs qui sont invités à assister à l'enregistrement du second procès de Socrate 2 et avec Alain Badiou. C'est demain à 20h à la Maison de la Radio. Alain Badiou qui sera notre invité lundi 11 mai. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.